Et si vous trouvez que c'est étonnant, eh bien, pensez simplement à un pompier, si j'ose dire, qui doit aller au cœur de l'incendie. Et que fait-il? Je caricature un petit peu, je ne connais pas très bien cette profession, mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit des gens comme... Ils se rafraîchissent, ils mettent des couvertures sur eux-mêmes, ils mettent des tissus, des vêtements qui sont ignifugés, ils se rafraîchissent, ils se passent de l'eau sur le visage, ils se renversent de l'eau sur le corps. Pourquoi faire? Pour pouvoir se rafraîchir, afin de pouvoir affronter les flammes. Et pourquoi est-ce qu'il, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il ne met pas de l'eau plutôt sur les flammes? Mais parce qu'il se méfie de lui-même, il sait que son corps est combustible. Et donc, comme son devoir est d'aller au milieu des flammes pour sauver les gens, sauver les biens, sauver les gens, comme il se méfie de lui-même, il se rafraîchit en quelque sorte, afin de pouvoir aller dans le feu. Eh bien, d'une certaine manière, c'est la même chose pour nous-mêmes. Nous devons prier contre nous-mêmes, de telle sorte que nous soyons garantis de notre propre combustibilité, si j'ose dire, lorsque nous nous conformons à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu, qui est notre sanctification. Puisqu'il est écrit, la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez des souillures du monde. Il nous faut prier contre nous-mêmes, nous-mêmes qui est la cause de la colère de Dieu. Notre impuissance à faire le bien, qui est commandé, de notre impuissance à faire le bien qui est commandé, nous oblige à prier contre nous-mêmes afin que nous soyons garantis contre cette impuissance malheureusement qui n'est pas simplement un fait passif contre lequel on ne pourrait rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien pour faire le bien. Mais ça, c'est la théologie qui nous le dit. Positivement parlant, physiquement parlant, si l'on peut dire, l'homme peut beaucoup de choses. L'homme n'est pas une chose passive, sinon ça se saurait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que la théologie définit comme une impuissance à faire le bien, notre expérience nous le fait expérimenter, sous notre vie nous en fait faire l'expérience, par l'expérience que nous avons de notre volonté propre, qui fait beaucoup de choses, mais pour elle-même. Nous aimons cette impuissance car elle se manifeste positivement par notre volonté propre qui sait persévérer dans les œuvres de mort qui lui plaisent. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui nous plaît et que nous savons que cela déplaît à Dieu, nous faisons quelque chose qui manifeste notre impuissance à faire le bien. Et donc vous voyez, pourquoi est-il tellement difficile, mes très chers frères, de s'affliger de notre impuissance à faire le bien? C'est parce que cette impuissance n'est formulée que théoriquement. Positivement, cette impuissance se manifeste par le plaisir que nous prenons à faire le mal. Et ça, quand on a compris cela, d'une certaine manière, et qu'on l'a admis, on a déjà compris un certain nombre de choses, des choses fondamentales, dans la stratégie de la guerre contre nous-mêmes. Ce n'est pas tellement que nous gisons dans une sorte d'impuissance qui nous rend incapables de tout mouvement, c'est que cette impuissance se manifeste par le plaisir que nous avons à faire les œuvres de notre volonté propre, c'est-à-dire à faire les œuvres que nous savons ne déplaire à Dieu, et les œuvres que saint Paul appelle les œuvres de mort qui doivent nous faire rougir, qui nous faisaient rougir autrefois, qui nous font rougir parce que nous les faisions autrefois et qui continuent à nous faire rougir parce que nous les faisons encore aujourd'hui. Alors comment Dieu vient-il à notre aide? Parce qu'en ce 12e dimanche, nous avons commencé la messe en disant Deus in aeuterum meum intendet, qui est le verset par lequel on commence les offices. Dieu, accourez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Comment Dieu se hâte-t-il de nous secourir? Eh bien, il a tout prévu. Dans l'Évangile, nous voyons un docteur de la loi, un peu roublard, mais disons contraint à l'honnêteté, dire. Maître, que dois-je faire? Dire à notre Seigneur, Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Notre Seigneur ne lui répond pas, vous remarquez bien, en lui disant, alors il se trouve qu'il y a une doctrine secrète qu'il faut connaître, il faut. Donc il dit, que lis-tu? Qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il le renvoie à la loi. Et le docteur de la loi lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc., et ton prochain comme toi-même. Et notre Seigneur, qui savait pourtant qu'il était là pour disons, pour le tenter, ou pour l'éprouver, il lui dit, tu as fort bien répondu, fais cela et tu vivras. Tout est écrit, mes très chers frères. Nous n'avons pas à nous décarcasser, si j'ose dire, pour trouver des moyens de plaire à Dieu. Nous n'avons pas à apprendre la cybernétique, le langage de l'Internet ou de l'ordinateur pour pouvoir faire quelque chose qui plaise à Dieu en faisant des sites, des blogs. Nous n'avons pas à ratisser non plus toutes les ordures des notices de la presse profane pour essayer de trouver les dernières horreurs à mettre sur notre site pour pouvoir justement avoir donné l'impression qu'on est toujours à la pointe de l'actualité, et puis aussi pour parler de tous les sales gauchistes puants et putrides, etc. Bon, ça, bon, vous voyez, ça, c'est pas très difficile de faire, puisqu'il suffit de glaner ceci, il suffit de tendre la main pour l'avoir. Ce qui est très difficile, voyez-vous, mes très chers frères, pour être sérieux, ce qui est très difficile, c'est de faire ce qui est à la portée de tout chrétien, parce que Dieu a mis à la portée de tout chrétien quelque chose qu'il veut que nous utilisions, et il veut que nous nous cantonnions à cela. Il veut que nous aimions Dieu, notre Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Et dire, oui, mais il faut aider notre prochain. Alors, attendez, oui. Arrêtez un petit peu avec ces sophismes qui nous permettent simplement et de nous dispenser de la charité et de faire n'importe quoi en dehors de notre état. Comment Dieu vient-il à notre aide, puisque nous l'invoquons à notre aide tout en priant contre nous-mêmes? Il nous dit, obéissez à la loi. Obéissez aux 10 commandements. Vous qui êtes des chrétiens, c'est-à-dire des baptisés, vous qui êtes capables d'obéir aux 10 commandements, et pas simplement à quelques commandements, aux 10 commandements d'une façon méritoire, c'est-à-dire d'une façon qui plaise à Dieu et qui le glorifie. La vie éternelle, que dois-je faire? La vie éternelle dépend du grand commandement. Aimer le prochain comme Dieu nous a aimés. C'est-à-dire en vue de son salut et du nôtre. Pour cela, il faut savoir comment nous avons été aimés, et comment Dieu s'y prend pour nous gagner à lui. Comment Dieu nous a-t-il aimés? En donnant son Fils, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui se perdaient, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés en donnant son Fils, en sacrifice expiatoire, par lequel sa propre colère a été apaisée à notre égard, dans la mesure où nous demeurons dans son Fils. Donc nous avons tout pleinement dans le Christ, dans la mesure où nous y demeurons. Le Christ, nous dit plus précisément l'Évangile, le Christ a été touché de compassion pour nous. La loi de Moïse nous disait ce que nous devions faire. Mais, représenté par ce prêtre et par ce lévite, qui sont passés à côté de ce demi-vivant, ou de ce demi-mort, et qui n'ont pas pu l'aider, la loi de Moïse ne pouvait pas nous aider. Maintenant, le ministère du Christ nous aide, puisqu'il nous répare. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais un Samaritain qui était en voyage vint à passer près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. Notre Seigneur a été touché de compassion en nous voyant. Donc si notre Seigneur, prenons les choses paisiblement, si notre Seigneur a été touché de compassion en nous voyant, c'est que nous étions pitoyables, c'est que nous sommes pitoyables. Donc toute forme d'orgueil, d'amour propre qui se manifeste par l'orgueil vis-à-vis de nos forces, vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis de tout ce que nous avons fait pour nous-mêmes ou pour Dieu ou pour le monde ou pour n'importe qui, tout ceci doit être éliminé par cette considération que si nous voulons que le Christ soit touché de compassion envers nous, il faut que nous ayons l'air pitoyable. Vous allez dire, on a l'impression que c'est vexant pour la nature humaine. Être pitoyable, faites attention à ce que vous dites, on dirait que vous rabaissez l'être humain. Mais l'être humain s'est rabaissé lui-même. Qu'allait-il faire à Jéricho, s'il vous plaît, alors qu'il était à Jérusalem? Qu'allait-il faire près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il avait la connaissance, il avait l'arbre de vie pour se rassasier? C'est sa faute, donc, s'il est tombé. Nous sommes tombés en Adam, nous sommes pitoyables. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pitoyables, Dieu n'aura pas pitié de nous. Donc on ne peut pas s'approcher du Christ ou à s'attendre à ce que Dieu s'approche de nous si nous sommes superbes, si nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'avoir une basse opinion de soi-même parce qu'on aimerait être différent ou parce qu'il se trouve qu'effectivement nous nous sommes déçus, etc. Non, le petit enfant qui naît et qui n'est pas baptisé est pitoyable. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, en fait, enfin, il est pitoyable, oui, d'une certaine manière, il est pitoyable parce qu'il est marqué par le péché originel et rien qu'à ce titre-là, il est déjà digne de la condamnation éternelle à l'enfer. avant même d'avoir fait quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est totalement faux et hérétique de dire que Dieu ne saurait condamner à l'enfer quelqu'un qui n'a jamais commis, qui n'a jamais violé la loi naturelle, etc. Comment un païen peut-il observer la loi naturelle puisqu'il ne connaît pas Dieu ? Il peut bien aimer son Dieu, mais être extrêmement dévot de son faux Dieu, c'est pas aimer le vrai. Même si ça, c'est la preuve que l'homme est fait pour aimer Dieu, mais vous voyez ? Donc, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. L'homme est pitoyable et il doit avoir pitié de lui-même. Et trop souvent, nous négligeons Dieu parce que nous n'avons pas assez pitié de nous-mêmes. Si nous avions vraiment pitié de nous-mêmes, nous crierions vers Dieu et nous lui demanderions de venir à notre aide. Mais comme nous n'avons pas assez pitié de nous-mêmes, nous sommes comme ces gens qui, par exemple, ont eu un accident et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur main, ils ont perdu quelque chose, ils saignent abondamment, ils ne se rendent pas compte pourquoi, mais pas pour diverses raisons, parce qu'ils ne se rendent pas compte, pour l'instant ils sont occupés à autre chose, et mettons que ça continue, ils perdent leur sang, ils ont perdu leurs membres, et si c'était possible, qu'est-ce qu'on leur dirait ? On leur dirait, mais ayez pitié de vous-même, regardez, vous êtes en train de mourir, tournez-vous vers les secours, tournez-vous vers les médecins. Ce que nous dit l'Église, c'est, elle nous dit, ayez pitié de vous-même, laissez-vous toucher de compassion, laissez Dieu être touché de compassion par le pitoyable état dans lequel vous êtes, en cessant de le nier. Pourquoi ? Alors vous allez dire, mais Dieu voit très bien, moi j'ai pas besoin, je peux être dans l'illusion. Non, parce que Dieu rebute les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous ne coïncidons pas avec ce que nous sommes, par la confession de notre état, Dieu n'aura pas compassion de nous. Vous voyez, de même qu'un médecin, s'il voit quelqu'un qui fait n'importe quoi, quelqu'un qui, par exemple, a des problèmes d'artère, et puis se gave de saucisson, de beurre, etc., et qu'il ne fait rien, on dit au médecin, mais est-ce que vous ne pouvez pas aider cette personne ? Et que va vous dire le médecin ? Il va dire, cette personne ne se tourne pas vers moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille courir après elle ? Elle fait n'importe quoi, elle vit dans la Grèce, et elle ne voudra jamais m'écouter. Mais dans la mesure où cette personne, mauvaises que soient ses habitudes, recourt humblement au médecin en disant « Voilà, j'ai l'impression de faire absolument n'importe quoi et je sais que vous seul pouvez me guérir », alors la relation est bonne. Voyez, soyons pitoyables à nos propres yeux, mes très chers frères, ayons pitié de nous-mêmes afin que Dieu puisse avoir pitié de nous, afin que le Christ puisse être touché de compassion. Et lorsque le Christ est touché de compassion, qu'est-il écrit ? S'étant approché, il versa de l'huile et du vin dans ses plaies et les bandas. Les pères, en particulier Saint Grégoire ici, commentant ce passage, nous dit que cette huile et ce vin désignent la façon dont Dieu nous traite lorsqu'il est touché de compassion envers nous. Il utilise toute une pharmacie qui est faite de douceur et de sévérité, de consolation et de dureté. La dureté, c'est le vin qui pique les plaies. La douceur, c'est l'huile qui les adoucit. Il n'est pas dit qu'il a mis simplement du vin, parce que ça voudrait dire que Dieu, alors, en quelque sorte, nous ferait univoquement souffrir en curant nos péchés. Il risquerait de nous faire mourir avant que nous ayons terminé notre pénitence. Et on ne dit pas non plus qu'il a mis simplement de l'huile, parce qu'il pourrait, sans laver nos plaies avec du vin, il pourrait y mettre simplement de l'huile et finalement apaiser la douleur de nos plaies tout en les laissant pourrir, de telle sorte que ce serait une fausse miséricorde dont il userait envers nous en nous disant que tout va bien alors que tout va mal pour nous puisque nous ne sommes pas encore guéris, et nous faire mourir dans notre propre corruption, mais sans que nous nous en apercevions. Il utilise donc l'huile et le vin, la consolation et la sévérité, la douceur et la rigueur. Et il dit, et il banda ses plaies. C'est-à-dire, nous disent les commentateurs, ils nous disent, il fait cesser nos péchés. C'est-à-dire qu'il fait cesser le péché en nous. Il ne continue pas, disons, à autoriser en nous le péché, les rechutes sans cesse, etc. Tout ceci fait partie de la médecine de Dieu, bien entendu, mais il se trouve qu'à un certain moment, après avoir fait usage, tout en faisant usage d'huile et de vin, il bande les plaies. C'est-à-dire qu'il cautérise les choses et il arrête l'hémorragie. Dans l'offertoire que nous avons entendu, il est dit « Le Seigneur s'apaisa et ne fit point le mal qu'il avait résolu de faire à son peuple. » Faire le bien, pour Dieu, c'est réparer l'homme déchu. Faire le mal, d'une certaine manière, il y a deux possibilités pour Dieu de faire le mal, entre guillemets, c'est-à-dire ou bien nous châtier tout de suite en nous faisant mourir, en nous damnant tout de suite, ou bien en nous laissant faire tout ce que nous voulons. Dieu, lorsqu'il se détourne de quelqu'un, le laisse faire exactement tout ce qu'il veut, et c'est ce que nous disent les auteurs, et même les païens en étaient capables d'avoir une idée de cela, puisque nous savons qu'il n'y a pas de pire châtiment que de pouvoir faire tout ce qu'on veut sans être jamais châtié. Si un enfant et si ses parents laissent l'enfant faire absolument tout ce qu'il veut, les parents n'aiment pas l'enfant. Si les parents corrigent l'enfant, on dirait que l'enfant est maltraité par eux, ce qui n'est pas vrai, mais évidemment il est contraint par eux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il l'aime. S'il ne l'aimait pas, il lui laisserait faire tout ce qu'il veut. Si Dieu, si j'ose dire, n'aime pas quelqu'un, il lui laisse faire tout ce qu'il veut. Dieu fait du bien, fait le bien à son peuple, à ses enfants, dans la mesure où il répare l'homme déchu. Mais il se trouve que pour l'homme déchu, cela se manifeste par, ou cela se réalise par la crucifixion au monde. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il laisse le mal se faire, laisse l'homme être en proie à l'amour du monde. Lorsque Dieu veut sauver un homme, eh bien, il le conduit à être crucifié au monde, ce qui, pour le monde, la racine du monde qui est en lui, c'est-à-dire la concupiscence, le vieil homme, cela est très douloureux. Ou cela semble très douloureux. Mais c'est d'autant plus douloureux que l'homme n'y met pas du sien. C'est un petit peu, c'est un exemple classique, c'est un petit peu comme un médecin qui voudrait remettre un membre, ou un dos, ou un genou, une épaule démise, que sais-je, et qui il doit faire des mouvements qui sont relativement douloureux, plus nous collaborons avec lui en nous laissant aller à ses mouvements, plus il va pouvoir travailler rapidement et sans nous faire trop de mal. Mais si nous sommes nerveux, si nous sommes chatouilleux, si nous dérobons à lui tout en souffrant, il va devoir nous attraper, nous maîtriser, etc. pour nous faire du bien, mais en même temps nous serons tellement tendus qu'il va arriver simplement à nous faire du bien, mais en nous faisant extrêmement souffrir. Pourquoi ? Parce que nous ne collaborons pas avec lui. Si nous voulons que Dieu cesse de sembler augmenter en nous la douleur de la crucifixion, nous devons nous laisser aller à collaborer avec Dieu. Plus nous voulons ce que Dieu veut, plus le bien que Dieu veut nous faire est indolore. Il y a toujours une certaine douleur, parce que nous sommes malheureusement rebelles par nature. Mais il se trouve que plus nous collaborons avec ce que Dieu veut pour nous et veut nous faire, plus nous collaborons avec notre confesseur qui veut nous aider, plus nous collaborons à la loi de Dieu qui nous dit de ne pas faire cela, donc nous allons nous abstenir de faire cela avec l'aide de Dieu, etc., plus finalement nous allons découvrir qu'il n'est pas très difficile d'être soigné par Dieu, puisque Dieu ne veut que notre bien. Tout le monde sait que quand on a une épaule de mise, le médecin qui sait la remettre en place fait quelque chose qui a l'air d'une extrême violence et extrêmement méchant, mais c'est quelque chose qui nous fait instantanément, qui enlève instantanément la souffrance. C'est la même chose pour Dieu. On a l'impression de voir arriver un Dieu avec des fioles, surtout de vin bien piquant et de désinfectant qui vont nous faire bien mal, mais si nous disons « mais finalement c'est pour notre bien », et que nous nous y prêtons, très rapidement, nous cessons d'avoir mal, même très rapidement, nos plaies se guérissent et se cautérisent. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous aurons mis de la bonne volonté. Nous y reviendrons dans un petit moment. Faire le bien pour Dieu, c'est réparer l'homme déchu. Or, réparer l'homme déchu, cela signifie le crucifier au monde, c'est-à-dire le crucifier avec le Christ, dans le Christ. C'est pour cela qu'il est dit, et alors vous allez dire, mais c'est une chose terrifiante. Non, puisqu'il est dit, puis le plaçant sur sa monture. Vous voyez, les auteurs nous disent que lorsque notre Seigneur, dans cette parabole, montre ce Samaritain qui place le blessé sur sa monture, cela fait référence au bon pasteur qui met la brebis perdue sur ses épaules. C'est-à-dire, c'est notre Seigneur qui assume notre humanité, de telle sorte que, ayant pris notre humanité, notre malédiction, il nous a rendu l'humanité réparée. De telle sorte que, nous plaçant sur sa monture, Si nous savions véritablement voir comment Dieu combien Dieu est bon pour nous, nous nous rendrions compte que là où il nous semble que Dieu ne cherche qu'à nous crucifier, en fait, il nous cherche qu'à nous mettre sur sa monture. Vous êtes crucifié avec le Christ, dit saint Paul. Et être mis sur la monture, être placé sur la monture du bon samaritain, c'est être véritablement, c'est une autre facette de la réalité qui dit que nous sommes crucifiés avec le Christ. Nous sommes une seule plante avec lui, nous sommes greffés en lui, nous sommes participants de lui. C'est cela, être crucifié avec le Christ, être placé sur la monture du Christ, être placé sur les épaules du bon pasteur. Vous voyez, ce n'est pas univoque. Dieu n'est pas un tyran qui veut nous faire souffrir. Dieu est un médecin qui veut nous guérir. Et dans les débuts, on ne voit pas vraiment une très grande différence. Mais le résultat se fait très rapidement sentir. Et même, la plupart du temps, même d'une façon très sensible. Quelle est notre part dans tout cela? Écoutez ce que nous dit un auteur, et je n'ai pas trouvé de parole plus consolante que celle-ci. Qu'il se tienne seulement attaché à ce bon pasteur qui le porte, car celui qui a commencé achèvera le reste. Qu'est-ce que l'on demande de cet homme à demi-vivant, qui est en train d'être soigné, qu'il tienne le bistouri, qu'il tienne la lampe, qu'il fasse un effort? Qu'il se tienne simplement tout attaché au bon pasteur. La brebis, on lui demande pas de chercher à justifier. On lui demande pas non plus d'avoir l'air ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire ne pas avoir l'air fatigué, épuisé, déchiré. On lui demande simplement de rester sur les épaules du bon pasteur. Si une brebis commence à gigoter dans tous les sens et qu'elle veut partir, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Ou bien d'être abandonnée par le bon pasteur, ce qui est fort, fort peu probable, puisque le bon pasteur n'abandonne personne, mais ça veut dire que, sachant qu'elle risque de tomber par terre, de se casser la figure, si j'ose dire, le bon pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on fait à certaines brebis, et bien il va lui attacher les pattes. Non pas pour la faire souffrir, mais parce que sinon elle va se faire souffrir. Qu'est-ce que demande de nous notre Seigneur lorsqu'il est en train de nous soigner? Que nous nous tenions tout près de lui, tranquille, sur sa monture. Alors vous allez dire, comment est-ce que ça se manifeste? Comment ça se pratique? Eh bien, il nous faut avoir un regard qui se porte toujours vers notre Seigneur. Il ne faut jamais perdre un moment pour revenir à lui et pour lui dire que nous avons besoin de lui. Tout ce que notre Seigneur demandait des Hébreux qui étaient mordus par les serpents brûlants dans le désert, c'était qu'ils regardassent au serpent qui était en croix. Chaque fois que nous voyons un crucifix, nous en avons quand même beaucoup dans nos maisons, au moins un, alors il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de vous. Lorsque nous voyons un arbre, il faut penser à la croix et dire, Seigneur, j'ai besoin de vous. Vous voyez, lorsque nous voyons le ciel, que nous sortons, nous voyons le ciel, et que nous pensons que c'est notre demeure, c'est l'image de notre demeure, nous devons dire, Seigneur, j'ai besoin de vous. Lorsque nous sommes à l'intérieur, nous devons dire, Seigneur, gardez-moi à l'intérieur de l'arche de l'Église. Vous voyez, il n'y a pas une seule réalité de notre vie chrétienne qui ne nous permette de remonter immédiatement à Dieu. Et c'est cela, pour le chrétien qui est en train d'être soigné par Dieu, c'est cela, se tenir attaché à Dieu. Qu'il se tienne seulement attaché à ce bon pasteur qui le porte, celui qui a commencé achèvera le reste. Achèvera le reste. Et il est dit, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. L'hôtellerie, c'était bien entendu, c'est l'Église. Notre Seigneur, tout ceci n'est pas forcément chronologique, tout ceci se fait en une seule fois, ou disons, c'est un mouvement. Il le mena dans une hôtellerie. Il le remet, nous disent les commentateurs, il le remet entre les mains des ministres de son amour. Il ne faut donc pas s'impatienter quand les pasteurs traitent nos plaies. Il ne faut pas penser qu'ils nous font mal, il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas assez rapides, il ne faut pas penser qu'ils sont trop lents, il ne faut pas penser qu'ils sont trop rapides, il ne faut pas penser qu'ils sont trop peu précautionneux. J'espère que nous avons des bons pasteurs. Il ne faut pas s'impatienter, parce que c'est alors que Dieu éloigne sa colère de nous. Nous avons commencé en voyant Moïse qui intercède auprès de nous, et nous nous avons dit, nous nous sommes posé la question, comment est-ce que Dieu, finalement, ne nous fait pas de mal, mais nous fait du bien? Il nous dit d'écouter sa loi et de la mettre en pratique. Et pour que nous puissions la mettre en pratique, il nous répare, il nous restaure. Et quand il nous restaure, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque nous sommes très dégénérés, nous sommes très mutilés, nous sommes très blessés, il ne faut pas s'impatienter. Il ne faut pas s'impatienter quand nos confesseurs nous diffèrent l'absolution, parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas encore assez, nous ne manifestons pas encore assez de signes de la vraie conversion. Il ne faut pas s'impatienter lorsque il nous semble que les choses vont lentement dans notre vie chrétienne et que nous sommes au creux de la vague et qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe et que nous n'avons que des efforts à faire et qu'on semble que le bon Dieu ne nous renvoie pas l'ascenseur. Il ne faut pas s'impatienter, il ne faut pas s'irriter. Tout ceci témoigne que Dieu est en train d'éloigner sa colère de nous. Vous voyez, lorsque vous avez été arrêté par des policiers ou par des gendarmes, et puis qu'ils vous ont contrôlé, qu'ils ont fouillé votre voiture, et que finalement votre innocence a été, semble-t-il, reconnue, et qu'ils s'en vont, Ce n'est pas le moment de démarrer en trombe ou de faire un excès de vitesse pour partir ou de souffler ou de faire des remarques désobligeantes. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont revenir. Et tout ce qu'on veut, c'est une fois que l'autorité s'est approchée de nous et nous a reconnus comme innocentes, c'est surtout ne pas l'irriter, ne rien faire qui donnerait l'impression que, dans le fond, nous étions coupables et que nous les narguons. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Il ne faut pas, alors même que Dieu est en train d'éloigner de nous sa colère, grâce à l'intercession de l'Église, grâce à l'intercession des ministres, grâce à l'intercession de nos frères, grâce à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, grâce aussi à la bonne volonté que nous manifestons en nous laissant porter par le bon pasteur, il ne faut pas s'impatienter. Pourquoi? Parce que sinon, nous risquons de prendre une claque. Une claque qui soit encore pour notre bien, bien sûr, mais qui ne sera jamais aimable. Vous voyez, quand le gendarme a fini avec vous et puis qu'il vous dit, bon, ben, c'est très bien, vous pouvez passer, vous pouvez partir, puis que vous dites, eh ben, dis donc, on a perdu du temps, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Normalement, s'il se sent offensé, il va revenir vers vous, et va dire, ah ben attendez, vous le prenez sur ce ton-là, on va continuer si vous voulez. Et pourquoi? Pourquoi provoquer Dieu? Pourquoi provoquer l'autorité, la force qui nous veut du bien ou qui ne nous veut pas de mal. Vous voyez, c'est la même chose pour nous. Bien souvent, nous faisons jusqu'à un certain point ce qui est bien, mais il se trouve qu'à un certain moment, nous nous impatientons et nous commençons donc à re-irriter, si j'ose dire, irriter à nouveau Dieu et nous prenons le risque qu'il se fâche contre nous à nouveau. Quelle imprudence, quelle folie. Alors, vous voyez, mes très chers frères, si nous évitons cette imprudence et si nous nous laissons porter sur les épaules du bon pasteur, en ne faisant rien, sinon qu'en ayant recours à lui et en disant, Seigneur, combien j'ai besoin de vous, Seigneur, je ne peux rien sans vous, venez à mon aide, voyez comme je suis pitoyable. Alors, mes très chers frères, il ne se peut pas que Dieu ne nous restaure pas dans la justice et ne nous fasse pas marcher de gloire en gloire dans les sentiers de sa justice. Et c'est pour cela que, à l'extrême fin de cette messe, dans un endroit où on ne regarde pas forcément très souvent, dans l'antienne de communion, qui est assez longue aussi, il se trouve que nous voyons la description le tableau de l'homme réparé. Écoutez ce qu'il est dit. La terre se rassasie du fruit de vos œuvres, Seigneur. Vous faites sortir le pain de la terre et le vin réjouit le cœur de l'homme. L'huile épanouit les visages et le pain affermit le cœur du mortel. Alors, j'en profite pour dire, mes très chers frères, n'utilisons jamais cette expression de ce verset des psaumes, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, parce que tous les pochetrons ou tous les sensuels, finalement, qui ont un tout petit peu de culture catholique, et j'espère qu'ils sont toujours à l'extérieur de l'Église, eh bien, citent toujours ce passage comme pour dire qu'on peut boire, on peut s'hydrater le gosier en toute quiétude et que cela est corroboré par l'Écriture. Attention, attention au sacrilège, attention au blasphème. On ne doit jamais utiliser les versets des psaumes pour rire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour, d'une part, que nous glorifions Dieu, par ce qui y est dit, et ensuite pour notre consolation et pour notre édification. Si nous avons bien rigolé avec nos amis en disant Ah, le vin réjouit le cœur de l'homme et puis que nous avons un peu trop bu, comment est-ce que, arrivé au 12e dimanche après la Pentecôte, face à ce verset de l'antienne de post-communion, nous allons pouvoir, je ne dis pas comprendre, parce qu'après tout, nous avons de la jugeote, nous pouvons comprendre, mais être dignes de bénéficier de la vérité qui est formulée par ce verset, le vin réjouit le cœur de l'homme. Rendons-nous dignes, mes très chers frères, ou du moins essayons de ne pas être indignes. Alors taisons-nous. Fin de la parenthèse. C'est le tableau de l'homme réparé. Les sacrements. Non de fruits que pour l'homme qui fait pénitence, qui a fait pénitence, qui a fait pénitence, et qui vit déjà dans la justice habituelle. La terre se rassasie du fruit de vos œuvres, Seigneur, vous faites sortir le pain de la terre, et le vin réjouit le cœur de l'homme, c'est l'Eucharistie, l'huile épanouit les visages, et le pain affermit le cœur du mortel. Il y a là le tableau, mes très chers frères, nous pourrions faire tout un serment dessus, nous ne le ferons pas, malheureusement, mais il se trouve que nous avons le tableau de l'homme qui a été guéri par Dieu, réparé par le bon pasteur, et qui se trouve être en mesure de pouvoir être fortifié par Dieu pour glorifier Dieu. Et nous retrouvons ici, avec le pain, le vin et l'huile, qui ont servi à guérir, à soigner et à guérir l'homme à demi-vivant. Les sacrements n'ont de fruits que pour l'homme qui a fait pénitence. Si nous sommes en état de péché mortel puis que nous recevons les sacrements, si nous avons une très peu de contrition, une contrition très faible et que nous retombons constamment, etc., les sacrements ne nous servent de rien à part le sacrement de pénitence qui nous met en lien particulier avec le directeur qui nous fait progresser dans les voies de la conversion. Sinon, évidemment, cela ne sert à rien. Au contraire, saint Paul nous prévient que si nous communions alors que nous ne devrions pas communier, cela produit un jugement contre nous-mêmes. Et donc, nous voyons revenir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous voyons revenir vers nous, plein de colère, ce Dieu qui finalement n'est plus apaisé envers nous. Et il est dit, et il prit soin de lui. Il le mena dans une hôtellerie et il prit soin de lui. Nous oublions souvent, mes très chers frères, que Dieu s'occupe de nous dans son immense amour. Nous le traitons, ce Dieu infiniment bon, infiniment attentionné, qui n'est colère que parce qu'il est infiniment saint, mais parce qu'il est infiniment saint, il nous a donné le baptême et le Christ et l'Église pour nous sanctifier, c'est-à-dire devenir semblable à lui. Nous oublions que ce Père céleste nous veut du bien et s'occupe de nous dans son immense amour, et bien souvent nous le traitons comme le fils prodigue a traité son père, c'est-à-dire en lui demandant notre part d'héritage pour en jouir à notre guise. Donnez-moi la fierté d'être chrétien, et puis après j'irai militer pour vous, et puis fichez-moi la paix, l'histoire de charité, etc. Tout ça c'est pour les libéraux, moi je suis un combattant. Oh là là, mes très chers frères. Vous allez dire, il y a des attitudes moins grossières. Oui, j'espère. Enfin, celle-ci est assez répandue, malheureusement. Néanmoins, vous voyez, nous disons au bon Dieu, oui, voilà, maintenant, vous m'avez guéri, maintenant, laissez-moi. Non. Laissons-nous non seulement soigner, mais guérir. Et non seulement guérir, mais nourrir. Et non seulement nourrir, mais paître par ce bon pasteur qui nous veut du bien parce qu'il cherche sa propre gloire. Sachons, mes frères, savoir que nous vivons sous le regard indigné d'un Dieu en colère, qui se laisse néanmoins volontiers fléchir par l'humilité, qui ne veut pas la mort du pécheur, comme dit le prophète, mais qu'il fasse pénitence et qu'il vive. C'est pour cela que nous devons crier à Dieu sans cesse, et lorsque Dieu s'occupe de nous, eh bien, c'est-à-dire dans la mesure où nous sommes ses enfants, c'est-à-dire nous sommes baptisés, nous devons ne pas gigoter lorsqu'il nous a mis sur ses épaules, et nous devons patiemment avoir recours à lui, sachant que celui qui a commencé en nous l'œuvre bonne la mènera aussi à son terme pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, crions à lui, mes très chers frères, crions à lui, allez, mon Seigneur, mon Dieu de mon salut, le jour et la nuit, je crie en votre présence. C'est cela qu'il faut faire, mes très chers frères, et nous savons que notre Père non seulement veut nous écouter, mais nous écoute. Gloire à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.